Écoute.
Écoute.
Émancipé.
Émancipé.
Le podcast de l'école émancipée.
Surveiller et punir, ou protéger et éduquer. Volet 3. Les luttes du SNPES-PJJ face aux transformations de la justice des mineurs et des métiers d'éducatrice. Une émission préparée et réalisée par Elisabeth Herouette et Gilles Martinet.
Natalité Saint-Saint-Denis. Mentalité 93. Génération toujours en place. Mentalité 93.
La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre,
mentalité,
mais aussi le plus criminogène de France.
Mentalité 93. Mentalité 93.
Mentalité Seine-Saint-Denis, je vais mourir en Seine-Saint-Denis. Je suis venu pour bicra pas d'insomnie. Je suis toujours dans le 7-5 Seine-Saint-Denis. J'ai vécu Seine-Saint-Denis, pas Sydney. J'ai 3-4 autres dans la plaine Saint-Denis. Je mange d'or Seine-Saint-Denis.
Bonjour Stéphane Viry, tu es co-secrétaire départemental du SNPES-PJJ-FSU 93. Donc le SNPES-PJJ, c'est le syndicat national des personnels de l'éducation et du social, de la protection judiciaire et de la jeunesse. Est-ce que tu pourrais commencer par présenter un petit peu les missions de la protection judiciaire de la jeunesse et puis un petit peu la situation actuelle, tant au niveau national qu'au niveau départemental ?
Alors bonjour. Les missions de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse, sont de prendre en charge des adolescents de l'âge de 12-13 ans jusqu'à l'âge de 21 ans, dans le cadre uniquement pénal aujourd'hui, et à la marge dans le cadre civil, c'est-à-dire dans le cadre de la protection de l'enfance. Cette situation-là, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, on prenait aussi des enfants dans le cadre de la protection de l'enfance. Et encore beaucoup d'éducateurs et d'éducatrices ont été formés à prendre en charge les enfants et à considérer que les enfants, qu'ils soient au pénal ou au civil, soient des enfants en danger qu'il faut protéger. Ce principe-là, il a volé en éclats il y a maintenant 25 ans à peu près, avec l'idée que la jeunesse, pour une partie de la société, représentait un danger. Alors ça a toujours existé, cette idée que la jeunesse est dangereuse. Mais à partir des années 90, il y a vraiment une volonté de faire un redressement de la jeunesse et non plus de la protéger et de l'accompagner dans son développement et dans son émancipation. Donc ça, c'est très important de le dire parce que je pense que l'un des malaises qui traverse aujourd'hui la protection sociale de la jeunesse, c'est cette différence culturelle entre ce qui est la volonté des éducateurs, des psychologues, des assistants de service social d'accompagner les familles, d'accompagner ces jeunes vers leur autonomie, vers leur émancipation et vers aussi la désistance en termes de passage à l'acte délictueux, mais aussi en dehors de la prostitution, parce que c'est un vaste sujet aussi, la prostitution des mineurs, mais sortir aussi du stupéfiant, sortir aussi de l'addiction aux réseaux sociaux, à tout un tas de choses, ce qui est un travail tout à fait important à faire. Ça, aujourd'hui, c'est complètement balayé par les ministres des gouvernements successifs, à part l'idée du redressement. Voilà. Alors pour ça, on a créé des institutions, les unes après les autres. Ça a commencé dans les années 90 avec les centres éducatifs renforcés. Avant, on avait ce qu'on appelait des séjours de rupture, mais c'était des moments qui permettaient à des jeunes de se remobiliser autour d'un projet divers et variés, ça pouvait être aussi bien des chantiers ou partir au Mali, faire de l'humanitaire, des choses comme ça. Et on est passé à autre chose, qui a été là, cette fois, des centres éducatifs renforcés. Alors, ils ont voulu garder au début l'esprit de séjour de rupture, mais ça n'a pas été le cas. L'idée d'un centre éducatif renforcé, c'était quand même qu'en 4-5 mois, un mineur qui était... commettait des vols, faisait 2-3 petites choses comme ça en bas de chez lui, soit redressé et ne soit plus un sauvageon. J'en prends les mots de Chevènement, parce que ça se fait à cette époque-là. Arrive ensuite une deuxième logique, et là c'est la deuxième vague qui vient modifier en profondeur l'institution, c'est la création des centres éducatifs fermés. Donc ça c'est 2002, et à ce moment-là, l'idée c'est la même chose. Là c'est une fois 6 mois, deux fois 6 mois, et c'est... Ça s'adresse normalement, ces centres éducatifs fermés, à des jeunes qui sont dits multirécidivistes. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs mesures judiciaires. Ils peuvent avoir été pris une première fois sur un vol à l'arraché, une deuxième fois sur un deuxième vol à l'arraché, et une troisième fois sur une bagarre. Donc voilà, on voit plusieurs faits qui sont cumulés les uns après les autres, et donc on décide de les placer en centres éducatifs fermés. Donc ces centres éducatifs fermés, aujourd'hui, il y en a à peu près une 50aine en France, ce qui est énorme. au détriment de l'accompagnement mi-ouvert, mais surtout aussi au détriment des hébergements traditionnels, qu'on appelait les unités éducatives d'hébergement collectif. Avant, ça s'appelait les foyers d'action éducative. C'était des foyers qui sont ouverts sur l'extérieur, avec l'idée qu'on accompagne les mineurs dans leur développement et vers leur autonomie, en s'ouvrant à l'extérieur et non pas en fermant tout à l'intérieur. Alors le deuxième coup de grâce, parce que ça c'est important d'en parler aussi, ça a été en 2007 la séparation du civil et du pénal. Pendant très longtemps à la PJJ, on accompagnait des jeunes en protection de l'enfance. Maintenant les seuls enfants qu'on accompagne en protection de l'enfance, c'est ce qu'on appelle les enfants de retour de zone de guerre.
Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail ce en quoi consiste cette séparation entre le pénal et le civil pour la protection judiciaire de la jeunesse ?
Alors, le pénal, c'est pour les enfants et les adolescents. Alors, quand je dis les enfants, ça commence vers l'âge de 10-12 ans, où ils peuvent être retenus par la police, qui commettent des délits. Ça peut aller de dégradation d'un abribus, en passant par des tags, en passant par tout un tas de choses comme ça, par le fait de tout type d'infraction qu'on peut faire, rouler en scooter, faire des roues dans le quartier sans casque, sans protection, sans assurance. Ça va être aussi passé par du deal, ça va être à des choses plus graves comme le proxénétisme, comme le viol, comme quelquefois des crimes plus graves, hein, des homicides, ça peut arriver aussi. Les délits les plus courants sont quand même les vols, vol simple et la vente de stupéfiants. Voilà. Donc après le civil, alors là le civil c'est tout ce qui est des enfants qui sont, dont les parents, soit par négligence, soit parce qu'eux-mêmes ne gèrent pas leur propre souffrance, vont être dans la maltraitance avec leurs enfants. Du coup, c'est des enfants à protéger. Et ça, c'est le rôle de l'aide sociale à l'enfance, donc l'ASE, qui dépend des départements. Et cette séparation qui a été faite a créé une situation très, très malsaine, parce qu'au final, on se rend bien compte que ces enfants qui soient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse, ce sont les mêmes. Voilà. Et on le voit ça aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Voilà. En Seine-Saint-Denis, les jeunes, des fois, passent de l'un à l'autre. Nombreux jeunes qui sont suivis aussi bien par l'aide sociale à l'enfance que par la PJJ.
Donc, si je comprends bien, on pourrait dire en quelque sorte qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont pris en charge par la PJJ ne sont plus perçus comme des personnes en construction qui rencontrent des difficultés plus ou moins importantes, des violences plus ou moins importantes dans leur vie qui nécessitent des besoins éducatifs particuliers, mais sont seulement perçus comme des délinquants.
Ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une perception de cette jeunesse qui a été très bien analysée. C'est-à-dire que c'est la jeunesse qui représente un danger, qui fait peur. Et je pense que dans un pays vieillissant, avec une droitisation de la société comme elle se fait avec cette montée de l'extrême droite, la jeunesse est perçue comme un danger. Alors, pas toutes les jeunesses, mais surtout la jeunesse des quartiers. Moi, j'aime beaucoup les travaux de Sébastien Rocher, qui a démontré, par exemple, que quand on vit dans certains quartiers, on va être beaucoup moins contrôlé que quand on vit dans des quartiers populaires. La jeunesse des quartiers populaires est beaucoup plus contrôlée que toutes les autres jeunesses. Et ce que j'aime à dire des fois, c'est que nos gamins, bien sûr, ils habitent dans le 93, mais quand ils vont livrer de la coke ou de la beuh à des jeunes pour leur fête, ils vont dans le 92 ou sur Paris. Et cette jeunesse en danger, on en parle très très peu et on ne la protège pas. Et les lois ne sont pas faites pour les protéger. Si on prend par exemple toutes les lois sur la question de la législation sur les stupéfiants, on ne protège pas les mineurs du tout. Moi, je donne un exemple très concret, hein, si je peux. Un mineur qui va être déféré pour du stup, donc on va lui prendre son stup, on va lui prendre l'argent qu'il avait sur lui. Lui, il était sur son point de deal, il va être déféré, sauf que quand il sort et qu'il revient chez lui le soir, il a une dette. Alors, il doit, bien sûr, le cannabis ou la cocaïne qu'on lui a pris. Donc, on va accumuler, ça va faire à peu près 400-500 euros. Et puis, plus l'argent qu'on lui a pris, s'il y avait 200 euros, ça fait 700 euros. Sauf qu'au bout de 3 jours, bah, cette dette-là, elle s'est transformée en 1000 euros. Donc, il n'a pas le choix que de retourner sur un point de deal pour pouvoir payer sa dette. Aujourd'hui, on connaît cette mécanique-là, mais on continue pour autant de faire, on a un ministre de l'Intérieur hein, qui l'a théorisé, qui s'appelle M. Gérald Darmanin, qui disait le harcèlement policier sur les points de deal. Sauf qu'on ne touche pas du tout les gens qui font ce trafic. Et en plus de ça, et on ne protège ni les mineurs, ni les consommateurs qui ont besoin d'être accompagnés si pour eux c'est une addiction. Donc on voit bien que ces politiques, elles servent strictement à rien, sauf à stigmatiser une population. L'une des spécificités de la Seine-Saint-Denis, c'est de cumuler toutes les difficultés des autres qu'on va retrouver dans notre public, mais en plus concentré. C'est-à-dire des élèves qui vont être plutôt déscolarisés, qui ont des difficultés et un rejet des institutions scolaires, qui peuvent avoir un rejet aussi des autres institutions, à commencer par la police, parce qu'ils sont contrôlés régulièrement par la police. Un rejet aussi. Alors donc nous, quand ils arrivent chez nous, il y en a, ils se disent, bon, bah, l'éducateur, c'en est un de plus, quoi. Ou l'éducatrice, c'en est une de plus qui vient de dire ce que je dois faire, mais moi, je m'en fous de ce qu'on vient de dire. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas rentrer dans un processus, à un moment donné, d'insertion sociale, professionnelle. On emploie beaucoup, c'est le terme à la mode, d'existence. C'est-à-dire sortir de leur ancrage dans cette petite délinquance. Ils peuvent le faire, mais il faut du travail, et il faut qu'ils aient une accroche. Donc ça, c'est l'enjeu en Seine-Saint-Denis, et on n'a pas forcément aujourd'hui les outils nécessaires. Il y a un deuxième enjeu en Seine-Saint-Denis, et là, je vais faire une focale sur la question de la prostitution. C'est pas que spécifique à la Seine-Saint-Denis. Ça touche beaucoup d'endroits, mais c'est particulièrement en Seine-Saint-Denis. Pourquoi ? Parce qu'on a des populations beaucoup plus fragiles. Après, il y a deux départements qui sont assez similaires de ce côté-là. Je pense au Val-de-Marne et au Val-d'Oise. Mais pour le coup, là, en Seine-Saint-Denis, on le sait, il y a un véritable recrutement, notamment de jeunes filles, dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, pour la prostitution. Et là, c'est un travail très spécifique aussi qui doit être fait d'accompagnement pour aider ces jeunes filles à sortir de là. Et alors, en plus de ça, vient s'ajouter désormais la prostitution masculine. Moi, je dis toujours que les gamins qui sont dans le trafic de ce type sont tout autant victimes que coupables. Ou comme les jeunes filles, ou même les jeunes, parce que certains passent du trafic de ce type au proxénétisme et qui sont pris là-dedans, ils sont pris dans un engrenage. Nous, ça nous arrive souvent aussi de suivre des filles qu'on a pour proxénétisme aggravé, qui elles-mêmes sont passées ou ont été départ prostituées. Et c'est des gamines qui ont 16 ans.
Banlieue Paris Nord-Est 9-3 pour ceux qui connaissent. Ça sort tout droit des murs de Bondy Nord et Sud. Chose dans les soucis et la tête est dans les sous. C'est comme d'hab, c'est comme avant. Les culs de joint calculent le temps. On attend qu'un poteau donne un plan. Je pavé neuf à Noisy Grand. Super M dépiné sur scène. Fous la merde, la suite de l'histoire écrit là. Le département que vous craignez, on n'a aucune confiance en l'être humain. Demande aux frères de Bagnolet, là nous cahier tout près du vin. Et nos mévilles prennent tout le cahier comme l'espace dans les terres du rap. On a trop vite enduré les pertes de proches d'une perte d'une balle.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelles sont les politiques publiques, notamment de New Public Management, qui touchent cette fois-ci non pas les objectifs qu'on donne à la protection judiciaire de la jeunesse, mais la manière dont les agents peuvent travailler, les conditions de travail et un petit peu l'évolution aussi vers une certaine forme de privatisation de la protection judiciaire de la jeunesse.
Alors sur la manière dont le New Public Management s'est mis en place à la PJJ, là aussi je pense qu'il faut remonter dans les années 90 jusque fin des années 80, début 90, les gens qui devenaient cadres à la PJJ, c'était des gens qui avaient commencé comme éduques ou psychologues ou assistantes de service social. Bon, c'était des gens qui étaient passés par le terrain, qui étaient restés pendant 20-25 ans sur le terrain, qui avaient passé le concours, il me semble que c'était chef de service à l'époque. Et c'était des gens qu'on allait chercher, que l'administration allait chercher, parce qu'on les savait capables de monter des projets, d'animer une équipe. Il y a eu beaucoup d'anciens syndicalistes, hein, il faut le dire, qui sont devenus directeurs. Donc ça, c'était un peu la matrice dans laquelle les gens ont vécu, ont grandi. Moi, quand je suis arrivé dans les années 2000, on était déjà sur la fin. Ceux qui étaient passés par le mouvement syndical étaient déjà venus des directeurs territoriaux ou des directeurs interrégionaux. Et on avait de jeunes directeurs et directrices qui venaient du concours externe. Donc un corps qui est complètement différent, qui était complètement séparé des éducateurs. Ça posait très vite des difficultés à l'administration. Ils ont créé un deuxième corps, qui est le corps des responsables d'unité éducative, pour soutenir ce corps des directeurs de service, qui, eux, avaient du mal, puisqu'ils ne comprenaient pas forcément notre travail, et en même temps, on leur demandait de nous évaluer et de nous diriger. Il y a des gens qui arrivent, qui ne connaissent pas le boulot, et on leur dit, vous allez diriger des gens qui, eux, connaissent leur boulot et sont des professionnels. Donc ça, c'est un peu le contexte dans lequel on est. Mais on a la même chose dans les hôpitaux. Et en plus, à la PJJ, ces directeurs-là, je vais être très dur avec les directeurs, c'était des gens qui étaient censés avoir des notions en termes de gestion, de politique publique, etc. J'ai pu me rendre compte dans le 93, un jour, alors qu'on travaillait sur la resectorisation, que ces personnes-là n'avaient aucune notion de comment on pouvait se construire des politiques publiques. Je vais donner un exemple très concret. Ils avaient décidé, alors Montreuil et Bagnolet, c'est le même secteur, il y a une cité qui s'appelle Lanoux, et bien ils ont eu la bonne idée de couper la cité en deux, ça veut dire de rattacher Bagnolet à un autre secteur, sans s'occuper de savoir que ces deux, c'était la même cité, que c'était la même zone, et que les jeunes allaient dans la même école primaire les uns les autres. Bon, donc le New Public Management, ça veut dire qu'on a des gens qui arrivent dans ce métier-là, et qui se retrouvent face à des professionnels, et qui sont eux-mêmes en difficulté. À ça, on a ajouté des responsables d'unités éducatives, qui sont des gens qui sont un corps de cadre intermédiaire, qui sont là pour à la fois soutenir les équipes, ça veut dire qu'avant, on avait des chefs de service fonctionnels qui soutenaient les équipes, qui avaient l'animation pédagogique, mais on leur a donné en plus le rôle de garde-chiourme. Ça veut dire que c'est eux qui nous évaluent, c'est eux qui vont nous dire ce qu'on doit faire, et c'est eux qui prennent les décisions au quotidien. Donc on voit bien là qu'on a un truc très hiérarchisé, et ça, ça s'impose. Et en plus de ça, nous, maintenant, il commence à y avoir une prime qui est le CIA, je ne sais pas si ça existe dans d'autres administrations, mais c'est une prime au mérite, qui représente quand même 1000 euros en fin d'année, ce qui est pas mal. Je crois qu'elle tombe, selon les régions, elle tombe septembre ou novembre. Et du coup, ça oblige aussi les gens vis-à-vis de leurs responsables. Et donc, on crée un système comme ça de loyauté, de vassalisation des personnes avec ça. Donc c'est ça le public management à l'APJ. Et ça crée des situations très délétères dans les équipes. Là où il y a des collectifs militants, il y a de la résistance. Ça, c'est un peu le propre de la Seine-Saint-Denis aussi. Il y a des collectifs militants, alors de manière complètement informelle dans les unités, mais ça existe. Donc ce qui permet de résister un peu contre ce New Public Management.
Comment ce New Public Management se conjugue à la privatisation de certaines des fonctions de la protection judiciaire de la jeunesse?
Il y a deux choses qui ont été privatisées au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse. Il y a d'une part le ménage et l'entretien. La protection de la judiciaire de la jeunesse a beaucoup de bâtiments propres à elle. Là où l'éducation nationale, les professionnels techniques ont été transférés dans leur gestion au département ou région, à la protection judiciaire de la jeunesse, on a carrément privatisé. Autre chose, avant on avait des adjoints techniques qui intervenaient, qui s'occupaient de tout le petit entretien. Ça allait des véhicules en passant par repeindre une porte, tourner la pelouse, etc. Ça, c'est le premier point sur la privatisation, l'externalisation de certaines missions. Et il y a une chose beaucoup plus grave, le fait qu'il y ait des groupes. Alors soit c'est resté des associations comme la Sauvegarde, soit c'est devenu carrément des entreprises, comme le groupe SOS, dont le président est un ami personnel de notre président de la République, et qui répondent à des appels d'offres, notamment pour la construction des centres éducatifs fermés. Je fais un détour, je quitte les 93. En Guyane, c'est eux qui ont construit les centres éducatifs fermés. Donc l'État donne de l'argent à des associations, qui ont, une association comme SOS, qui en tire des bénéfices et qui ensuite fonctionne exactement comme une entreprise. Donc on a quand même quelque chose là, pour des jeunes qui sont placés au pénal, c'est comme si on mettait à mettre le doigt dans l'engrenage vers une privatisation du système carcéral. Sauf que là, on est pour les mineurs. Alors je suis contre l'enfermement des mineurs, mais je suis d'autant plus contre l'enfermement des mineurs quand c'est des entreprises privées qui en profitent pour faire de l'argent comme le groupe SOS. Mais ça, c'est le processus actuel. Et ça, aujourd'hui, on le voit, il y a certaines associations, et c'est toujours le groupe SOS, j'insiste dessus, mais c'est une réalité, qui vont jusqu'à se présenter comme la protection judiciaire de la jeunesse. Et ça s'est accéléré depuis l'arrivée de Macron en 2017. Là, on a une vraie accélération, on a une vraie volonté de privatiser, notamment sur les centres éducatifs fermés. Alors, pour quelle raison? Il n'y a aucune raison rationnelle là-dessus, parce qu'ils coûtent tous aussi cher, voire même plus cher en termes de coûts de revient pour l'État par jour. Si on allait sur leur raisonnement à eux, je ne suis pas dans leur raisonnement. Mais...
Donc on a un panorama vraiment très sombre de dégradation des droits et de l'accompagnement des mineurs qui sont pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, d'attaques contre les conditions de travail des agents et des agentes de la protection judiciaire de la jeunesse, de privatisation, de missions, voire d'établissements dans leur ensemble. Quelles sont les actions que mène le SNPES-PJJ en réaction, à la fois pour défendre les conditions de travail des agents et des agentes du service public, mais aussi pour défendre les droits des mineurs pris en charge?
Sur la défense des droits des mineurs, nous, on est très vigilants en termes d'action. Nous, on a interpellé il y a deux ans sur le département Clémentine Autain, parce que c'est la députée de la maison d'arrêt du secteur de Villepinte, c'est sa circonscription, et Villepinte est sur sa circonscription. Et donc, du coup, on l'a interpellé parce que quand on est député sur une circonscription où il y a un lieu de détention, on a le droit d'intervenir en tant que parlementaire pour le visiter, pour le voir, etc., et de se faire ouvrir les portes de la prison. Donc on l'avait interpellé là-dessus. Nous, on essaye de faire du lobbying, notamment sur cette question-là, vraiment, des mineurs en détention, suite à une vague de... Il y a eu un jeune qui est mort de suicide, et il y a deux autres jeunes qui avaient fait des tentatives de suicide. Donc c'était quand même une situation qui était très compliquée. Il fallait qu'on alerte sur les conditions de détention. C'est une mission, je pense, le quartier mineur de Villepinte, qui est particulière, mais qui souligne aussi l'état de dégradation, et surtout l'état de dégradation dans lequel se sont retrouvés ces jeunes à l'issue du Covid. Il a fallu du temps pour que le fonctionnement redevienne normal et que l'administration pénitentiaire comprenne que ces jeunes avaient besoin de quelque chose, tout simplement d'un accompagnement éducatif quotidien. C'est juste ça. Les collègues qui se battaient contre ça, on les a soutenus dans ces actions-là et on a interpellé les gens. Aujourd'hui, on ne va pas dire que ça va mieux. C'est pas vrai, ça va pas mieux. De toute façon, tant qu'il y aura des jeunes en détention, ça n'ira pas mieux. Mais les collègues arrivent, bon an, mal an, à être dans un lien avec les jeunes. Voilà. Donc ça, c'est un peu concrètement ce qu'on a fait. Donc on a un peu fait de remue-ménage. Et autre chose qu'on a fait il y a aussi quelques temps, c'est qu'on a essayé, et là on est reparti dedans, dans l'idée aussi qu'il faut qu'on se mobilise collectivement et en intersyndical. On a notamment eu un gros mouvement à la rentrée 2024 sur les contractuels, qui ont été menacés dû aux coupes budgétaires. Là, cette année, ça s'est fait de manière beaucoup plus sourdoise, mais il y a quand même eu, d'ici de là, on se rend compte, des postes qui ont été supprimés, avec des fois des gens qui nous disent « bah non, moi je pensais ça hein. ». Donc il y a tout un il y a un responsable d'unité qui me dit « mais non, mais le poste-là, oui, on a obtenu un deuxième professeur technique sur notre unité éducative d'activité de jour ». Mais par contre, nous, on voulait conserver deux éducateurs. Parce que moi, aujourd'hui, je ne peux pas assurer le boulot que faisait l'éduc. Donc on se rend compte que l'administration coupait les postes de ci, de là. Nous, c'est tout notre boulot du quotidien. Ça veut dire accompagner les collègues, les équipes, dans ce qu'ils revendiquent aussi. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Et on essaye de le faire le mieux qu'on peut. Ensuite, c'est l'idée de construire, en effet, un rapport de force avec l'administration, parce que la mobilisation est peut-être la seule chose, et la médiatisation sont les deux choses qui permettent vraiment de pouvoir essayer de faire bouger les lignes. Mais oui, l'essentiel passe par la médiatisation. C'est ça, en fait, qui va faire les choses. On a été interpellé ces jours derniers par le fait qu'il y ait une femme qui a été violée au tribunal de Bobigny, hein, au dépôt. Donc le dépôt, c'est l'endroit où c'est que les gens qui sont déférés sont retenus avant de passer devant un juge et devant le procureur. Les avocats ne descendent plus au dépôt. Voilà. Ça fait des années qu'on alerte sur le dépôt, sur l'état du dépôt. Alors pas que nous, hein, pas que le SNPJ-FSU, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, l'Union nationale des magistrats, tout le monde alerte sur l'état de ces lieux. Ben, nous, dans ce cadre-là, on va aussi participer à ce mouvement-là parce que les mineurs, eux, ils passent par ces lieux-là. Donc si une jeune femme peut se faire violer dans le dépôt, un mineur peut se prendre des tartes dans le dépôt, voire plus. Sans parler de l'état des cellules, de l'état dans lequel elles sont faites. Donc là, actuellement, je sais qu'il y a un mouvement qui a été lancé par le SAP de ne plus descendre au dépôt tant que les choses ne se sont pas améliorées. Et ben nous, on va accompagner ce mouvement-là aussi. Voilà. On va le soutenir, on va essayer de voir quelles sont les modalités d'action qui peuvent être faites en place. L'autre chose qu'on pratique, c'est le boycott des instances de dialogue social. On a fait ce choix il y a maintenant plus d'un an. On avait fait un mouvement au mois d'avril 2024 pour revendiquer plus de moyens en intersyndical avec EFO et la CGT et donc la FSU. On était les trois organisations ensemble pour demander plus de moyens pour la Seine-Saint-Denis. Suite aux coupes budgétaires, notre direction territoriale nous a annoncé qu'elle suspendait les travaux. Voilà, donc on n'aurait pas plus. Donc il n'y aurait pas de mise en place d'un plan d'urgence spécifique à la Seine-Saint-Denis. Il n'y aurait pas d'expérimentation parce que c'était la promesse qui avait été faite par le directeur interne régional d'Île-de-France Outre-mer qui nous avait dit « on va expérimenter ». Et donc il était parti, on était parti vraiment des revendications qu'on a portées, nous, le SNEP, sur le plan d'urgence. Ben, on a décidé de tout boycotter. Voilà, on s'est dit « c'est bon, on va arrêter là, ça ne sert à rien, on ne va plus dans ces instances-là pour dire « ben non, mais qu'est-ce qu'on va discuter ?» discuter le fait qu'on va fermer un poste là et on ouvrir un autre là, discuter le fait que les conditions de travail se dégradent là et qu'il faut mettre un coup de peinture parce qu'il y a des alertes, parce qu'il y a des infiltrations d'eau depuis 6 mois dans une unité, parce que dans telle unité, ils ont des rats régulièrement. Qu'est-ce qu'on discute ? Alors c'est ça, en fait, la question qui est posée. Donc nous, non, on n'y va plus. C'est un choix. C'est pas par radicalité, hein. Je dis bien, c'est pas ça. Parce qu'à côté de ça, on continue l'accompagnement individuel, on est prêt à rencontrer l'administration pour des situations individuelles ou des demandes d'équipe, mais on ne va pas aller siéger dans des instances officielles où il n'y a rien à gagner. Parce que l'administration, elle a pas pris en compte les conséquences des réformes qui ont été faites, notamment avec la mise en place du CJPM, du Code de justice pénale mineure, il y a maintenant 3 ans et demi. Donc elle n'a jamais pris en compte.
Est-ce que tu pourrais présenter rapidement ce que c'est ce CJPM ?
Alors le CJPM, c'est... Alors on en a parlé un peu durant l'interview, mais de manière très, très lointaine. C'est en fait, le CJPM, c'est une réforme jusqu'à l'arrivée du CJPM, il tombe 2021. Donc voilà, jusqu'à 4 ans. La justice des mineurs, c'était l'ordonnance de février 45 qui régissait toute la justice des enfants et des adolescents du point de vue pénal, avec l'idée que le primauté de l'éducatif... Mais c'était ce qu'il y avait le plus important. Le Code de justice pénale des mineurs vient sanctuariser tout ce qui a été fait à partir des années 90. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'aspect répressif, l'idée de redressement, et j'insiste là-dessus, hein, ça, parce que ces principes-là, c'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes-là se redressent, qu'ils deviennent des bons petits soldats bien obéissants, et bien ça, c'est ce qui sous-tend le CJPM. C'est une compilation de tout ce qui avait été fait comme réforme avant. Et avec de fortes régressions, hein, puisque la plupart des situations font qu'on est aujourd'hui passé d'un système où c'est qu'un enfant ou un adolescent, jusqu'à son jugement, entre le moment où il était déféré et son jugement, il n'y avait pas de césure. Aujourd'hui, on a une césure, ça veut dire qu'on a une période de probation. Et en plus de ça, on les juge très rapidement. Ce qui fait que, je vais donner un exemple un peu plus concret parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne. Dans l'ancien système, un enfant était déféré, il était placé sous liberté surveillée préjudicielle, donc jusqu'à son jugement. Il pouvait se passer quasiment un an avant son jugement, ce qui fait que l'enquête avait le temps de se faire. Des éléments pouvaient être apportés de contextualisation et que des fois, même, on en arrivait à considérer que l'enfant avait été une victime plutôt qu'un auteur. Ça pouvait être le cas, par exemple, sur une situation... de mise en cause sur des infractions à la législation sur les stupéfiants. On pouvait aussi l'innocenter sur une situation de vol. Alors, il avait certes borné à tel endroit, mais au final, on se rendait compte que ce n'était pas lui qui avait commis le fait, parce qu'il y avait des faits similaires qui avaient été commis par un autre jeune qui avait été arrêté, etc. Donc tout ça, ça ne peut plus se faire, puisque au bout de 3 mois, donc un jeune est déféré, il y a un premier jugement sur la culpabilité, c'est ça l'essentiel de la réforme. Donc là, nous, on doit normalement fournir un rapport. En Seine-Saint-Denis, on ne voit pas les jeunes avant la culpabilité. Quand c'est un primo délinquant, on ne le voit pas avant la culpabilité. Donc il y a la culpabilité, et ensuite, il y a la sanction, 6 mois plus tard. Donc il y a une période de probation. Mais en fait, c'est de la justice d'abattage, parce que nous, on n'a pas le temps de travailler avant. Donc ce qui fait qu'on a une justice à double vitesse, quand on voit un procès comme celui de notre ex-président, c'est qu'il a mis plus de 10 ans de procédure. Un gamin qui vit dans une cité où il y a du trafic de stup, qui va être pris une première fois à 14 ans, on va le juger au bout de 3 mois, on va le déclarer coupable. C'est-à-dire que fondamentalement, le CJPM, ça vient remettre en cause le fait qu'on prenne le temps de voir. Parce que la séparation de la culpabilité et de la sanction, ça aurait pu avoir du sens si et seulement si on s'accordait du temps à juger la culpabilité, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est comme si cette justice-là, c'était la comparution immédiate pour tous les mineurs. Ça, c'est le gros point noir du CJPM qu'on a vu en Seine-Saint-Denis, sachant que nous, on ne voit pas les mineurs. Ils voient un éducateur uniquement auprès du tribunal parce qu'ils n'ont pas le temps de voir un éducateur en milieu ouvert. Ensuite, sur la deuxième chose, sur l'audience de sanction, c'est vrai qu'on peut y voir un intérêt puisque là, les faits ont été reconnus et on peut avoir cette césure. Elle permet quand même un temps de travail qui est spécifique, qui est très différent de ce qu'on essaie avec l'ordonnance de 45. C'est certes une période de probation, mais c'est une période aussi... Ou à un moment donné, si le mineur, après son jugement, reconnaît les faits, dit « mais ok, d'accord », on peut travailler réellement sur les faits. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant, mais pas dans le contexte actuel et sans les moyens. Si on nous mettait les moyens, éventuellement, on pourrait discuter de cette question de la césure. Parce que, par exemple, il y a d'autres organisations qui ne sont pas contre la césure. Le syndicat de la magistrature n'est pas contre la césure pour les mineurs, ni le syndicat des avocats de France. Ça fait débat chez eux, mais ils ne sont pas tout à fait contre. Alors ils se rendent bien compte qu'à Bobigny, c'est une catastrophe.
Paysage très difficile pour la protection judiciaire de la jeunesse. Quelles sont les revendications principales aujourd'hui du SNPES-PJJ?
Alors, on est toujours pour qu'il y ait une abrogation du CJPM et qu'il y ait un code de justice des enfants et des adolescents qui soit à la fois protecteur et émancipateur, ça c'est très clair. Après, ça demandait beaucoup plus de choses là, parce que je suis même pas sûr qu'on soit tous d'accord entre nous sur ce qu'on va mettre derrière. Mais en tout cas, ce sera autre chose que le tout répressif et le tout pénal. Ça, c'est la première chose. Après, il y a le plan d'urgence, mais je pense que l'une des choses qui me paraît le plus importante aujourd'hui, c'est la fin des centres éducatifs fermés, le retour à des hébergements ouverts sur l'extérieur et qui soient protecteurs, et non pas uniquement des hébergements où c'est qu'on va placer des jeunes parce qu'ils ont commis des délits. C'est une chose essentielle. Et après, la baisse des normes dans les milieux ouverts. Passage peut-être par une étape à 20 jeunes avant d'arriver à 16, mais nous, on demande en Seine-Saint-Denis depuis longtemps, on veut rester sur le mandat historique de 16 jeunes par éducateur. Parce qu'au-delà, on n'a pas le temps de travailler correctement. Et voilà. 16 jeunes par éducateur, pourquoi ? Je tiens à le dire, c'est parce que ça nous permet de revenir à avoir une heure à peu près, un peu plus d'une heure par semaine par jeune à consacrer. Alors qu'aujourd'hui, on a moins d'une heure par mois par jeune.
Pour les auditoristes, quand on parle de baisse des normes à la PJJ, ça veut dire une diminution du nombre de jeunes suivis par chaque éducateur ou éducatrice.
Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un éducateur a 25 jeunes environ, et nous, on pense qu'il faut qu'on vienne à 16 jeunes. Après, on demande aussi des moyens pour les unités éducatives d'activité de jour. J'en ai très peu parlé là, mais c'est quand même un pilier important, puisque pour les jeunes qui sont déscolarisés depuis longtemps, c'est des endroits où ils peuvent se remobiliser, retrouver un rythme. Il y a des profs techniques qui ont des méthodes pédagogiques qui sont particulières à la PJJ, de remobilisation autour d'ateliers, que ce soit la cuisine, la menuiserie, etc. Mais aussi, il peut y avoir aussi des profs des écoles qui interviennent, qui aident à redonner confiance à ces jeunes qui ont décroché très très tôt. Et puis beaucoup de sport aussi, et un peu de culture.
Et c'est un peu le fil rouge de toutes ces discussions, redonner à la PJJ sa mission d'émancipation pour l'ensemble de la jeunesse et pour ces jeunes qui rencontrent des violences, des difficultés dans leur construction et sortir d'une logique répressive.
Alors, sur l'ordonnance de 45, de février 45, l'objectif c'était de former des travailleurs. C'est des éducateurs qui, petit à petit, de par leur expérience, ont amené à ce que cette institution puisse devenir aussi un levier d'émancipation pour les jeunes. Parce qu'on ouvrait aussi sur d'autres choses. Oui, c'est possible de construire une autre institution. Il n'y a pas de souci là-dessus. Une autre institution dans laquelle les professionnels soient reconnus et qu'on puisse travailler à cet accompagnement. Parce que l'émancipation, c'est un processus qui se fait toute la vie. On a tous notre part d'aliénation. Donc au moins qu'ils puissent s'engager sur ce processus-là d'émancipation.
Merci beaucoup Stéphane et merci beaucoup au SNPES-PJJ pour l'ensemble de ces luttes.
Merci.
Dans cet épisode, nous avons écouté des extraits de Seine-Saint-Denis de JKSN, de 93 de Zixo et de Le Paradis se trouve dans le 93 de Théodora. A très vite pour un nouvel épisode d'Écoute Émancipée.
Retrouvez l'ensemble des contenus publiés par l'École Émancipée dans sa revue et sur son site écoleémancipée.org.
Merci à Samuel Hirsch, créateur du jingle de ce podcast.
Écoute. Émancipé. Le podcast de l'École Émancipée.
Notre podcast se trouve sur la plateforme Spectre et sur vos services d'écoute préférés, avec beaucoup d'autres podcasts consultables sur spectremedia.org. Spectre.